Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ? Ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité, ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier, nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux travailleurs multi-activités qui, d'une certaine manière, inventent ou réinventent des façons de travailler, surtout quand ils choisissent des activités pour le sens qu'elles donnent à leur travail. Nous verrons aussi sous quelles conditions ces activités offrent une rémunération qui permet de subvenir à ses besoins. Pour cela, aujourd'hui, nous recevons Frédéric Lacoste. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Frédéric, vous êtes enseignant de théâtre au patronage laïque du Pilier Rouge à Brest et président de l'association Les Darons. Donc on verra un peu plus loin qu'est-ce que c'est tout ça. Et voilà, on va parler métier, on va parler travail à partir du théâtre et de cette association que vous avez montée. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Et ce qui est intéressant, c'est de voir un parcours qui part d'un peu plus loin, d'autres boulots que vous avez faits. Et est-ce que c'est donc le parcours qui vous a conduit à un moment à envisager l'enseignement du théâtre, parce que vous le faisiez avant, comme une façon aussi de gagner sa vie ? Et parallèlement, parce que ça ne suffit pas, à créer cette association. Voilà, on part sur le parcours bien en arrière.
D'accord. Bon, je vais essayer de synthétiser alors.
Soyez synthétique, ouais, parce que bon, vous avez 46 ans, je précise, ouais, c'est un sacré parcours. Mais...
C'est un profil à mille métiers. Donc en gros, pour faire simple, j'ai quitté l'école en fin de seconde. J'ai fait à l'époque ce qu'on appelait un CES, contrat emploi solidarité. Pour faire simple, après, je suis rentré à la ville de Paris comme éboueur.
D'accord, là vous étiez fonctionnaire, moi.
J'étais fonctionnaire de la ville, ouais, de Paris, dans le 15e. Donc, ce que j'aimais beaucoup au final, parce que j'étais en extérieur. Et puis, j'étais balayeur. Et en fait, quand on est balayeur, on est longtemps seul, 6-7 heures par jour, et ça laisse la possibilité à l'esprit de
naviguer.
De naviguer, tout à fait.
D'accord, ça c'est le premier boulot et vous l'avez quitté, alors pour quelle raison ?
Après, donc, j'avais pris une première dispo, ensuite je suis passé d'équipe d'après-midi, déblaiement de marché, et puis bon là on soulève des charges et tout, et puis commence à des problèmes de dos et tout, donc il fallait que ça s'arrête quoi, au bout de 8 ans. Voilà.
Donc vous avez fait 8 ans cette activité ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Et vers 30 ans, 35 ans
vous... Ouais, c'est ça, 29-30.
D'accord, ouais. Le dos, et c'est vrai, ouais, après les marchés, il y a un sacré boulot.
Ouais. Ah ouais, c'est énorme.
Il faut s'en rendre compte.
Puis on faisait aussi des... On était reaper aussi, mais pas reaper à l'arrière des camions.
Reaper, ça veut dire ?
Reaper, c'est le mec qui est derrière, en fait, sauf qu'on appelait reaper aussi dans les camionnettes type jumper, en fait, où on chargeait des meubles, des frigos dans la rue, les encombrants.
Ok, ça c'est premier pas dans la vie pour gagner sa vie, fonctionnaire, protégé, mais un boulot qui devient difficile.
Tout à fait.
Vous envisagez la suite à ce moment-là ?
À ce moment-là, j'ai mon fils, donc je me remets en disponibilité puisque c'était possible et je décide de partir.
En disponibilité, je précise que c'est votre poste est protégé, mais vous n'êtes pas rémunéré évidemment.
Tout à fait. Et donc c'est à ce moment-là où je décide avec la mère de mon fils de partir sur Brest.
Ah d'accord.
Voilà, et bon, j'avais fait plein de boulot avant bien sûr, mais et au final j'arrive à Brest, que je ne connaissais absolument pas, j'ai pas de famille ici.
Pourquoi Brest alors ?
Parce qu'en fait je voulais pas aller dans le sud et je voulais une ville du nord, enfin nord de Loire, de plus de 100 000 habitants, et puis j'ai eu un coup de cœur.
D'accord.
Voilà. Bord de mer.
Donc vous arrivez à Brest, alors comment on fait pour vivre à Brest quand on débarque ?
on est parti avec des économies quand même. On avait quand même l'objectif de monter une boutique de vêtements vintage qu'on a ouverte. 3 ans pendant les travaux du tram, ce qui fait qu'on était en Haute-Jaurès à côté du cinéma Les Studios. Donc ça a pris cher, mais on a tenu 3 ans. Alors en arrivant moi sur Brest, j'ai été livreur de pizza à Domino's Pizza Albert Premier.
Ah oui, d'accord, vous avez fait d'autres métiers. Ouais, ouais. Vous avez fait de l'aide à la personne aussi, c'est après.
Après ça, tout à fait, j'ai fait une formation AFPA.
Chronologiquement les choses.
Ouais. Et donc j'ai fait ça 5 ans. Bon, je le faisais, j'avais pas le permis encore à l'époque, donc je faisais ça à vélo, donc c'était un peu rustique. Et puis j'en ai eu marre, on fait du vélo sous la neige, j'ai dit mon gars, faut que t'arrêtes là, parce que voilà. Et il se trouve que c'est à ce moment-là où je suis devenu coordinateur du Festival Oops.
Donc après aussi l'aide à la personne.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Pendant 5 ans.
Ouais. Et ça s'est enchaîné comme ça, en fait.
Et alors, comment on passe de l'aide à la personne à Oups, il y a un saut quand même là.
Alors, il y a un saut. Alors, le saut, en fait, était un saut relatif, puisque je donnais déjà des cours de théâtre en ado, ado et adulte, à Penard Créa chez à Bellevue. Parce que ça faisait partie du contrat pour le Festival Oups, déjà depuis 3 ans, en fait.
D'accord. Donc par une activité qui était absolument secondaire à ce moment-là, ouais. Le théâtre, ça vous plaît, c'est un hobby, ouais. C'est plus que ça, vous faites un peu plus. Mais là, ça vous permet d'avoir un contrat de travail pour le Festival Oops, donc voilà. Une organisation qui fait un festival de théâtre une fois par an.
Ouais. Donc qui amène le théâtre professionnel dans les quartiers. Et donc en fait, la singularité qui a amené à la suite, c'est que je travaillais pour les semaines de la petite enfance, donc je sélectionnais des spectacles à destination des 0-3 ans.
D'accord.
Et j'ai beaucoup apprécié en fait l'univers de la parentalité, ce qui nous amènera tout à l'heure à l'association. Mais en gros, pour faire simple, c'est à ce moment-là où j'ai compris, pendant la période du Covid, la période du Covid, on y est encore, mais au tout début, avant les vaccins. Donc, si on se remet dans le contexte, c'était une maladie émergente avec et sans vaccin. On en pense qu'on en veut, mais c'est pas la même chose en termes de... Voilà. Et c'est à ce moment-là où j'ai... Oui, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié le contexte de la parentalité.
Attendez, ça va un peu vite là.
Ouais.
Vous travaillez pour Oops, vous faites vous organisez une programmation pour les enfants, et là vous vouliez les pères, c'est ça ?
Et tout à fait, voilà, c'est-à-dire en fait, c'était dans le contrat, c'est des contractuels en fait, le Festival Oops travaillait avec la CAF et les semaines de la petite enfance. Donc en fait, ils devaient, avec Très Tôt Théâtre, ils étaient deux en fait à sélectionner, donc le Festival Oops sélectionnait pour Brest, et Très Tôt Théâtre pour tout le reste de la zone.
Et quel lien avec la parentalité ?
C'est-à-dire qu'en fait, là, je me suis retrouvé en fait, dans le milieu de la parentalité, avec la CAF, dans la sélection de spectacles.
Ah oui.
Et par contre, je travaillais en fait avec les centres sociaux, je travaillais avec des crèches.
D'accord, vous avez rencontré les institutionnels de la parentalité, la CAF, les centres sociaux, les crèches, d'accord.
Donc okay. Le lien, il est vraiment à ce niveau-là, quoi. Ouais.
D'accord, donc là, vous travaillez pour une organisation, vous êtes payé, vous avez un contrat à durée déterminée pour 3 ans.
Un CDI, ouais.
Indéterminé.
Il était indéterminé, ouais.
D'accord. Et vous êtes alerté sur la parentalité. Vous êtes vous-même papa à ce moment-là, d'un enfant de quel âge à ce moment-là ?
À ce moment-là, je dirais 13-14.
D'accord, 14, ok. Ouais. C'est un âge où il change pas mal de choses.
C'est ça.
Et donc, vous quittez Oops, c'est ça ?
Oui,
pour quelle raison alors ?
C'est une rupture conventionnelle. Bon, les raisons, je ne vais pas les évoquer, mais c'est...
Ok, ouais.
Ouais, voilà. Mais j'ai très heureux de travailler pour le Festival Oops.
D'accord. Et donc là, vous quittez Oops et alors vous décidez de vivre à partir de l'enseignement du théâtre.
Mm-hmm.
Et la deuxième activité, il faut la présenter maintenant. Alors.
Tout à fait. Donc en fait, comme c'est dans le cadre d'une rupture conventionnelle, donc j'y suis encore, ça m'a donné la possibilité de faire beaucoup plus de cours au final.
Parce que vous étiez rémunéré par le chômage, mais vous avez du temps, quoi.
Tout
donc, à fait. Plus de temps pour donner les cours.
Ouais.
Donc vous êtes arrivé à un cumul de combien d'heures d'enseignement ?
Je dirais une 10-12 heures à peu près.
D'accord.
10-12 heures. Donc à peu près.
Sur 3 lieux, c'est ça ?
Ouais, sur 3 lieux, donc à Jacolo, au Relais, et à l'Astérie, à Plougastel. Et là, j'ai travaillé sur tous les publics, enfants, ados, adultes et seniors. Je fais du théâtre avec tous les âges de la vie au final, et c'est assez...
D'accord.
Ouais.
Donc ça, c'est un point d'appui.
Ouais.
Et le deuxième, donc, décrivez ce que vous faites pour créer ce deuxième point d'appui qui était en cours de création.
Tout à fait.
Ouais.
Donc là, je me suis dit, en fait, c'est le moment idéal, vu mon âge et la possibilité, en fait, de travailler un projet. Donc, comme j'avais apprécié le travail de la parentalité, je me suis dit, quel axe t'intéresserait ? Ça n'a pas mis des plombes, en fait, à émerger. J'ai constaté qu'il y avait des pères, et j'en suis un moi-même, et voilà. Et des pairs qui étaient présents. Donc je me suis dit, c'est marrant parce qu'en fait, ils sont peu présents. Donc statistiquement, dans les spectacles SPE, c'est Semaine Petite Enfance, il y a toujours à peu près 10-20% de pairs. Dans les...
Quand oui, ça se oui, passe oui, bien. Oui, c'est souvent les mères qui vont. Ouais, enfin, moi-même, j'ai été en tant que père.
Ouais. Ou alors, ou accompagnants féminines. Parce que ça peut être aussi des crèches, ça peut être. Ça peut être... Mais c'est des accompagnants féminines. Mais quand les hommes ou les pères accompagnants masculins sont là, ils sont très heureux d'être là. Par contre, ils sont très difficiles à faire venir. Donc, c'est quand même bizarre, il y a quand même un truc. Pourquoi ?
C'est... D'accord.
Et au final, de fil en aiguille, j'ai commencé à poser des questions. Comme une espèce de... Voilà, j'essaie de comprendre un peu le contexte de la paternité dans le cadre de cette énorme chose qu'est la parentalité, parce que c'est énorme. Hein, c'est en discussion permanente, au final. C'est quelque chose qui est en évolution permanente.
Oui.
Et du coup, je me suis dit... Je sentais, en fait, qu'il y avait une envie des pères qui était sincère de s'investir, et qui n'était pas discutable. Il y a énormément de pères qui veulent trouver leur place.
Bah, qu'ils la trouvent aussi.
Et qu'ils la trouvent, ouais, tout à fait. Ouais. Sur la tranche 0-4 ans, hein, très spécifique aussi. Et je me suis dit, essayons de comprendre pourquoi, etc. Bon. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à travailler notamment avec la maternité de Kérodrin, qui a accepté que j'organise des réunions de pères.
D'accord, ouais. Alors là, il faut être plus précis. Parce que c'est pas rien, c'est une institution. Enfin, c'est un hôpital, c'est une maternité, c'est un hôpital important. Comment s'est passé le premier contact avec la maternité et sous quelle, de quelle manière hein, qui a pris contact avec l'autre et de quelle manière ouais.
Alors, en fait, disons que lorsqu'on est un homme, en plus j'ai pas la gueule de l'emploi, mais ça je m'en rends compte, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis qu'on n'est pas diplômé au final. Parce que
quel emploi ? Parce que là, je vous vois faire plus.
Alors, petite enfance. Oui, bien sûr. Mais après, non, j'entends bien. Mais c'est dans ma manière de fonctionner, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un secteur en fait, on touche à l'enfance et donc il faut être extrêmement clair en fait, il faut être extrêmement cadré.
Oui, l'enfance, la santé, voilà. Les enfants, c'est sacré, ouais.
Exactement, et il y a des process et puis c'est des structures, les structures officielles qui sont elles-mêmes débordées comme les centres sociaux, enfin voilà. Donc au final, quand on envoie des mails, les réponses ne se font pas toujours. Donc,
qu'est-ce que vous proposez dans le mail?
Je décris en fait l'association, je décris ses actions.
Ça, ouais, vous montez une association d'abord. Ouais.
Voilà, tout à fait.
On l'a pas dit.
Ouais. Hein. Ouais.
Loi 1901.
Tout à fait.
Et les statuts en deux lignes, c'est.
Les statuts, c'est des statuts qui disent en gros. Je synthétisais les statuts, mais c'est qui disent en gros, voilà, il y a pas de pensée illégale tant que c'est pas en opposition avec la loi, c'est-à-dire que quand on pose des questions, il faut accepter les réponses. C'est-à-dire, quand je pose des questions à des pères et qu'ils me parlent, par exemple, qui me parlent de ce qu'a été leur enfance, tout ça, dans les réunions, bah, des fois, ça, oui, ils n'ont pas le vocabulaire ou le champ lexical de
donc, vous revendiquez la première chose, c'est organiser des réunions, c'est
oui,
ça ?
Tout à fait.
Avec des pères.
Voilà.
Deux, vous aviez pris la métaphore de les alcooliques anonymes parce que l'idée que quand les gens s'expriment, c'est bienveillance, deux, oui. Écoute et liberté, c'est ça que vous dites. Ouais.
Liberté dans un cadre, c'est en fait, il ne faut pas de propos homophobes, racistes.
Non, mais bien sûr. Bien sûr. Ouais.
Donc le cadre permet en fait une protection de, de chacun et d'avoir une parole libre.
Pour parler de.
Pour parler de ce que c'est, des ressentis en tant que père, en fait. Puisque
d'accord.
C'est,
donc, vous créez un lieu d'échange entre pères.
Voilà.
Et de 0 à 4 ans.
Qu'ont des enfants ou qui vont être amenés à en avoir, puisqu'à la maternité de Kérodrin...
Oui, ça peut être une préparation aussi.
Tout à fait. Et en fait, ils viennent et...
Donc, voilà. Ouais. Ça, c'est votre activité. Vous la ficelez dans des statuts. Mmh. Et vous la proposez à la clinique.
Tout à fait. Alors, c'est par le biais d'une amie qui a proposé, en fait.
D'accord.
Et donc, j'ai été reçu très cordialement donc, par l'association Maternitim, qui chapeaute, en fait, les réunions de ce type-là.
Comment elle s'appelle, l'association ?
Maternitim.
Maternitim,
voilà.
Qui chapeaute des...
Toutes les associations, en fait, qui viennent proposer ce type de... Alors, c'est plus pour les mamans, au final, 90% des choses. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font de plus en plus pour les papas.
Donc, une association qui chapeaute tout ce qui se fait sur la parentalité sur
voilà, de sophrologie, des choses comme ça.
D'accord. Mais elle chapeaute pour qui
pour Kérodrin. Pour Kérodrin. En fait,
pour la clinique.
Voilà.
D'accord, il y a un chapeau, ok. Voilà. Mais bon, il apprécie votre initiative.
Oui, tout à fait.
Et il vous sollicite.
Oui, oui, oui.
Et donc, alors, première activité, première réunion, comment vous la concevez, comment ça se passe,
ouais. Alors, j'utilise en fait mes connaissances en éducation populaire, c'est-à-dire, en fait, on ne sélectionne pas les gens, mais on ne choisit pas les personnes avec qui on travaille, mais on pose un cadre. C'est-à-dire que moi, tous les pairs viennent. Je ne dis pas, par exemple, si telle personne, oui, tout le monde vient. Donc ça, déjà, ça rassure. C'est-à-dire que j'ai tous les publics. Donc des militaires, des personnes sans emploi, des cadres, voilà, tout le monde, vraiment, de toute origine.
D'accord. Militaires, on est à Brest, il y a des militaires.
Beaucoup. Beaucoup, ouais. Et c'est d'ailleurs, c'est un public intéressant parce qu'au final, il parle pas tout de suite, mais quand il parle beaucoup, vraiment. Et c'est très intéressant.
Ouais. Donc c'est des réunions d'une heure, deux heures
Alors ça devait être une heure au départ, mais c'est plus deux heures à chaque fois.
Donc, et vous mettez comme...
Je coordonne.
Coordonner, animateur, les questions sont lancées par les pairs.
Alors en fait, comme moi, mon souhait, c'est de travailler dans un cadre institutionnel, parce que moi, je crois beaucoup aux institutions. Puis l'institution, en fait, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas médecin généraliste. Il est important que le process soit validé par la personne qui me reçoit, enfin, par la structure, pardon, qui me reçoit.
Donc, vous décrivez un process.
Tout à fait. Leur décris le process, qui est simplissime. Au final, l'idée, c'est j'utilise un imagier, des vidéos, et l'idée, c'est surtout d'amorcer la discussion. Parce qu'une fois qu'elle est lancée, la discussion, ça va assez, c'est assez simple. Mais il faut l'amorcer. Et du coup, le process, lui, il est bon, donc au final, j'ai jamais de problème avec ça. Et une discussion en amène une autre. Moi, je cadre aussi avec des axes, hein, parce que j'ai prévu mes axes aussi. Et voilà.
D'accord. Et vous avez proposé la même chose, je crois, à Landerneau dans...
À la Maison des Familles. C'est les premiers, au final, qui m'ont accueilli. La toute première structure qui m'est accueillie. Mais ça a été assez complexe, en fait, de mettre en place des réunions. Parce que voilà, je me suis confronté au réel et c'est pas parce qu'on arrive à passer par le Télégramme Ouest France et côté Brest
que
mécaniquement du public qui vient. Ça marche pas comme ça du tout.
Non, mais ça, rien ne vient tout seul.
Mais j'étais jeune, c'était il y a un an, donc c'était une forme de naïveté.
Non, mais rien ne se fait seul.
Tout à fait.
Sans effort. Donc là, on voit une première activité, on va y revenir. On va maintenant passer à la deuxième. Enseignant de théâtre, alors. Quel travail vous faites, où, à qui et comment, avec quel objectif?
Alors, en fait, au départ, moi, j'ai démarré il y a 9 ans, 9-10 ans, en fait, à La Libido, on m'a commencé à...
Donc, La Libido, c'est une compagnie de théâtre qui est mise sur l'impro, c'est
ouais,
ça?
Tout à fait. Et en fait, c'est des lits de tournant, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça, mais je crois que ça n'a pas changé. Au final, c'est c'est les adhérents qui, de temps en temps, peuvent proposer des entraînements.
Quand vous disiez lead, ça veut dire des conducteurs?
Oui, c'est ça, pardon.
To lead.
To lead. Et en fait, c'est vrai. Et un jour, ils m'ont proposé de faire un entraînement et j'ai aimé tout de suite. Qui a bien marché, puisqu'au final, on m'a demandé d'en refaire.
C'est ça, c'est eux, finalement, qui vous ont, à vos propres yeux, vous donné du crédit pour dire « Ouais, moi aussi, je peux enseigner l'improvisation théâtrale. »
Donc, au final, ça m'a permis, j'ai utilisé aussi les vieilles, ce que j'avais appris avec mon ancien prof de théâtre, Jean-Christophe Moncis, qui m'a vraiment appris toutes les bases, en fait, j'ai beaucoup appris avec lui, en fait, Jean-Christophe, en région parisienne, et je l'ai mis en pratique. Enfin, il m'a suivi pendant plus de 20 ans, le machin. Donc,
D'accord, ouais, donc le corps, la voix, l'émotion, les gammes, enfin bon.
Tout, la totale. Pas 20 ans, mais un bon 12-13 ans, peu importe. Mais donc j'ai mis en application tout ça, j'ai développé aussi ma propre méthodologie, et au final, l'idée, c'était... Alors, je préférais travailler avec les adultes au départ, parce que ce que j'apprécie, c'est faire surgir l'âme d'enfant chez les adultes. C'est très compliqué, mais c'est ce que je préfère, au final, de les voir se marrer, je trouve ça plus intéressant. J'avais fait les ados aussi, je trouvais un peu plus compliqué. Et il se trouve que l'année dernière, on m'a proposé de faire un atelier enfant. J'avais très, très peur. Très, très peur d'un atelier enfant. J'étais vraiment flippé.
De quel âge ?
Ça démarre à 8 ans, 8-9 ans, voilà, donc à Plougastel. Au final, je me suis retrouvé avec donc enfant, ado, adulte et depuis peu en fait public senior pour les semaines bleues.
Sur des heures différentes ?
Sur des heures différentes, oui.
D'accord. La semaine bleue, précisons, c'est une semaine consacrée à la, à l'âge...
Ouais.
Le grand âge, non pas le grand, enfin bon, la vieillesse quoi.
Tout à fait. Et...
Ok, et là donc vous proposez vos services aux différentes MPT, PLL, enfin patronage laïque,
alors,
maison pour tous, maison de la MJC, enfin bon à Brest on est servi, y a... c'est très...
Alors dans le cadre de Oops en fait, le deal avec, un des deals pour avoir, enfin un des deals c'était qu'il devait donner des cours de théâtre dans des centres sociaux et j'assurais ces cours de théâtre à la... au centre social de Penarcréache, où en fait la transition libido et prof de théâtre, elle s'est faite à Penarcréache, où j'ai commencé à donner mes cours, où j'étais prof pour le festival Oops, en fait.
D'accord.
Voilà. Et aide à domicile.
Ok. Bon, là, on voit au four et au moulin. Hein, le four, je sais pas, la parentalité, le moulin. le théâtre, c'est... on voit d'où ça vient. Peut-être avant d'aborder, dans ce cas-là, la question économique, moi, me semble, des fois, elle n'est pas pour un fonctionnaire, par exemple, bon, il y a un salaire, c'est tout. Pour vous, c'est forcément plus compliqué et plus intéressant à étudier. Là, combien d'heures de théâtre ? Vous avez dit une douzaine d'heures sur trois lieux.
Ça
vous permet, on en avait discuté, je crois, d'assurer à peu près un tiers de vos besoins,
oui,
c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui.
Bon, il ne faut pas rouler en Porsche, mais
ça va. Une Twingo.
Ça marche très bien.
Très très bien.
Et alors, peut-être en quelques mots, le métier d'enseignant et le plaisir qu'on en tire.
Bah, le au final, c'est assez.
D'enseignant de théâtre, c'est
Ouais. Bah, en fait, le c'est assez difficile de. Je vous dirais, lorsque mon tout premier cours, donc j'avais 9 ans. Quand ma mère m'a inscrit au théâtre à la MJC de Montrouge.
Quand vous appreniez, là, à ce moment-là, ouais, ok.
Tout à fait, c'est 37 ans, voilà. Et c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre qui m'a jamais lâché.
Oui, mais après l'enseigner, c'est autre chose.
Tout à fait, déjà. Ah oui, mais il y a un continuum. Donc j'ai compris que c'était un coup de foudre. Et il se trouve que ce coup de foudre-là, en fait, à un moment donné, je suis arrivé à un âge où je me suis dit, bah, c'est intéressant de transmettre. Et j'ai pris du plaisir, en fait, à transmettre. J'avais peur de transmettre parce que je ne me sentais pas légitime pour le faire.
Oui, c'est toujours cette question qui se
pose. Bah, c'est ça. Et puis, au final, je me suis dit, bah, écoute, mon gars, arrête un peu, quoi. Enfin, on te propose, là, déjà, la libido. Ils te font assez confiance pour que... Voilà. Je me suis dit, arrête un peu de douter tout le temps comme ça. Et vas-y. Et c'est vrai que...
Quel plaisir on en tire, c'est le fait que, quoi, de voir quelqu'un tout d'un coup faire quelque chose qu'il n'a pas fait.
Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est en fait, quand on a une passion, on la transmet, que la personne, elle prend du plaisir et elle dit... Parce qu'au final, dans des centres sociaux, c'est la différence entre les cours et les troupes, c'est que dans un cours, une personne peut se dire, bah, je vais faire ça un an sur un pari, j'ai toujours voulu faire du théâtre, je me fais une pièce et après, j'arrête. Ça, c'est assez régulier. Mais de se dire que cette personne-là, en fin de compte, elle va prendre du plaisir, que ça se trouve, elle va peut-être se réinscrire parce qu'elle a tellement pris qu'elle va prendre du plaisir, elle a dit, bah, tiens, j'ai envie de recommencer. Mais même si elle ne recommence pas, je sais par expérience qu'elle s'en souviendra. C'est évident, parce que l'expérience de la scène, on s'en souvient.
Bon, le métier de comédien, oui, c'est un corps, une voix, une énergie.
Oui.
Et d'enseignant, ça passe par quoi, principalement ?
En fait, moi, je travaille beaucoup sur l'énergie, donc je suis très physique et l'absurde. J'aime beaucoup l'engagement physique, scénique et l'absurde. Ça colle assez bien ensemble.
Et à l'écoute, peut-être ?
À l'écoute, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Et à l'écoute, oui, parce qu'au final, on peut faire du cas par cas. C'est-à-dire, en fait, quand on commence à connaître les gens dans un cours, on n'a pas 40 personnes dans le cours. Hein,
c'est une dizaine de personnes.
Ouais. C'est ça, c'est en moyenne 10-12. Donc, on peut dire, bah, tiens, cette personne, avec l'expérience, on sait que telle personne, il ne faut pas l'amener, etc. Parce qu'on est dans des centres sociaux, donc on a parfois des personnes qui ont eu un passé complexe.
Oui, il faut savoir jusqu'où on peut l'amener.
Exactement.
Quelqu'un, sans le brutaliser, évidemment.
Voilà, on n'est pas des brutes, tout à fait. Ouais.
Bon, là, on voit un métier, on voit ce qu'il rapporte. Enfin, c'est pas la première raison, ça, c'est sûr. Mais bon, ça rentre dans une façon de gagner sa vie.
Oui.
On va attaquer le deuxième. Quel est le savoir-faire pour faire ce que vous faites, c'est-à-dire organiser des réunions avec des futurs papas ou des jeunes papas et avec pour objectif que bon, la parole circule, qu'elle s'exprime, et que ça apporte quelque chose à ses papas.
Déjà, le non-jugement réel, c'est-à-dire en fait, à partir du moment où on pose une question à une personne, il faut s'attendre à tout type de réponses, et même des réponses des fois qui piquent un peu. C'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas, je le disais, il n'y a pas de parole qui soit illégitime ou illégale, tant qu'elle n'est pas en opposition avec la loi. Voilà. C'est-à-dire, en fait, si une personne est très abrupte dans ses propos, c'est très très rare. Hein. Mais si ça arrive...
D'accord. Il y a combien de personnes en général en réunion ?
Il y a entre... ça se fait dans une chambre, donc max on peut être 9.
Dans une chambre d'hôpital ?
Une chambre d'hôpital, ouais. Ouais.
Ah d'accord.
Donc c'est
OK.
Donc c'est pas hyper grand, mais on a déjà la possibilité de le faire. Donc... Et on a été jusqu'à 10.
Vos compétences en théâtre peut-être peuvent servir là.
Tout à fait.
Parce que pour l'écoute, pour voir ce qui se passe vraiment.
Exactement. Et de pouvoir en fait, le corporel, c'est très important de pouvoir lire le corporel,
oui.
Le stress, la jambe qui fait clac 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 comme ça, les bras croisés, enfin tout. Après, il se trouve que c'est assez compliqué parce que là, c'est plus le cas. Mais pendant tout le début de mes réunions, on avait le masque.
Ah oui, là, ouais. On fait du travail masqué, mais bon.
Ah putain, et au final, moi...
Oui, pour le théâtre.
Mais j'avais donné des cours masqués, moi. Donc je connaissais déjà le fait de faire du théâtre avec des masques. On a dû réinventer aussi pendant le...
Ah oui, mais moi... Ouais. Oui, le théâtre du masque, en soi, c'est une discipline, à vrai dire.
Oui, mais avec ce masque Covid, mais là...
Oui, c'est pas le même, c'est pas la comédie de l'arté, non.
Ah non, et au final, ça m'a permis...
Ça donne de la force au corps de mettre un masque sur le visage.
Oui, mais du coup, ça sur la lecture du langage corporel, ça faut être encore plus attentif, parce que du coup, tout passe beaucoup par les yeux, les bras, enfin, c'est une autre lecture.
Si on masque le visage, le corps est plus parlant.
Ouais, il faut observer autrement, et ça s'est vraiment bien passé. Et non, très, très content. Et voilà, donc au final, il y a une logique, c'est-à-dire non-jugement réel, être capable de faire comprendre qu'il y a un cadre, voilà, parce que c'est extrêmement important.
D'accord.
Cadre de bienséance, j'insiste beaucoup.
Et comment là-dessus. On reçoit la clinique, tout ça, pour l'instant, ils en sont satisfaits, j'ai l'impression.
Écoutez, ils en sont satisfaits, puisqu'ils m'ont reconduit, donc...
D'accord.
Ouais.
Ok. Alors maintenant, on voit deux activités. On voit pourquoi vous les faites, comment vous les faites. Donc, on voit le boulot. Comment. Alors, ouais, on va aller plus loin sur la question économique parce que malgré tout, pour en faire un métier, il faut en tirer un revenu.
Tout à fait.
Sur le théâtre, on voit assez bien comment ça peut se passer. Hein, c'est des heures. Bon. Sur l'association, donc on en a discuté déjà, vous voyez trois formes d'évolution possibles pour en tirer un revenu, même si c'est pas les raisons pour lesquelles vous avez fait ça, mais il faut y arriver quand même. Donc on peut envisager les trois. Donc là actuellement vous êtes président de cette ASSOD, vous avez une activité qui se développe, qui a été validée par la clinique Hérodrin, ce n'est pas rien, il peut y en avoir d'autres derrière. Qui a été validé aussi par Landerneau, qui est un...
Maison des familles.
Maison des familles. Donc maintenant, comment passer à la vitesse supérieure ?
En fait, il y a trois... Moi, je souhaite passer un CAP petite enfance là, à la rentrée, justement pour booster ma légitimité, puisqu'en fait, c'est, comme je disais, c'est un secteur où il faut montrer des garanties, et c'est normal. Donc moi, pour moi, ce qui est important, c'est en tout cas de parvenir à faire ce CAP petite enfance. Dans le cadre de ma vie actuelle, qui est un peu complexe au final, puisque la vie, c'est aussi, c'est pas une autoroute. Hein, voilà.
Non, non.
Bon, donc au final, tout va se jouer aussi dans la capacité, en fait, à faire que les choses s'enchaînent. Hein, on va pas rentrer dans les détails.
Donc vous prenez la parentalité depuis la petite enfance, c'est-à-dire une formation pour s'occuper des enfants dans les crèches.
Voilà, c'est en fait acquérir une légitimité. Voilà. Il y a des métiers comme ça dans les ressources humaines. Si vous n'avez pas de master, vous ne pouvez pas faire certains...
Oui, c'est-à-dire que c'est une forme de diplôme qui pourrait valider, aux yeux de certains, le fait que vous organisez des réunions pour des pairs.
Oui, puis c'est un engagement aussi. C'est se dire que il essaie d'aller au bout du truc. Quoi.
Donc ça, c'est une étape supplémentaire. Vous allez faire cette formation. On va se mettre un peu plus loin dans une projection. Vous avez cette formation, vous avez le diplôme de ces adjoints de péricultrice.
C'est CAP petite enfance, en fait. C'est
petite enfance, ok.
Ouais.
Comment poursuivre ce projet d'association qui s'appelle Les Darons, hein, disons-le. Les Darons, sur Google, on tape Les Darons Brest, on tombe dessus. Comment pousser plus loin après, vous avez ce diplôme.
Donc là, on avait...
Là, vous l'aurez, vous ne l'avez pas encore, mais vous l'aurez.
On avait évoqué trois axes. Hein, donc il y a le être salarié associatif. Voilà.
Bon, salarié associatif, ça, vous devenez salarié de votre asso, dans voilà. ce cas-là, il faut ne plus être président.
Voilà, tout à fait.
Il faut aussi que l'association fasse des prestations.
Tout à fait. Et puis, puis ça implique de répondre à des appels à projets. Ça ne se fait pas comme ça. C'est complexe, c'est long.
Il faut définir même des prestations. Quel type de prestations vous définiriez?
En fait, ça dépend des appels. Les appels à projets peuvent extrêmement varier. C'est très compliqué parce que là, par exemple, vous voyez, il y a des appels à projets qui peuvent être très spécifiques ou très larges. Vous pouvez faire un appel à projet sur une action en particulier.
Vous avez déjà répondu à un appel à projet?
Alors, à titre personnel, non. Mais par contre, je ne vais pas les nommer parce que c'est encore en cours, mais une structure privée qui souhaite faire appel en fait, à l'association Les Darons a répondu à un appel à projet pour une action précise.
Et c'est quoi cette action hein?
Ben, en fait, c'est faire venir un auteur, M. Tanguy, pour parler de petit carnet de paternité.
Quelqu'un qui a écrit sur la paternité.
Tout à fait, un Quimpérois.
Il cherchait quelqu'un pour le faire parler et... Voilà. Éventuellement créer un dialogue avec le public et ils sont venus vous chercher.
Bah oui, c'est ça. En fait, on a convenu de ça parce qu'on trouvait ça intéressant. Ils voulaient, c'est une structure.
D'accord. Donc ça, c'est la prestation. Là, ça serait une espèce de table ronde autour
c'est ça.
De.
Mais vous voyez, c'est une action spécifique. Après, il faut trouver pour des financements plus larges. Et puis, il faut aussi que l'association, il faut être un certain nombre, etc. Donc ça, c'est un des premiers axes qui avait été évoqué. Le deuxième, c'est être salarié d'une crèche. Hein. Je pense que c'est, à mon avis...
Alors, dans la crèche, vous seriez auxiliaire de puériculture.
Alors, non, parce qu'auxiliaire de puériculture, c'est un...
Vous seriez quoi, là?
S'occuper, en fait, c'est le premier poste.
Ok, donc vous occupez des enfants.
Tout à fait.
Ce qui vous voulait faire, c'est rencontrer plein d'enfants et plein de parents.
Et des parents,
des
mères
et des pères. Et à partir de là, là, vous gagnez en légitimité.
On est sur le terrain, donc au final,
Mais alors, comment vous l'envisagez depuis la crèche, arriver à détourner?
Ça n'est même pas détourné. C'est-à-dire, en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est pas détourné, parce qu'au final, c'est trouver un lieu qui accepte d'être pilote de cette question de la paternité, c'est-à-dire que
vous embrayez le lieu.
Voilà, alors embrayer, c'est-à-dire
excusez-moi, vous avez raison.
L'embrayer,
une certaine manière, vous arrivez dans une crèche avec cette double ou triple compétence, d'autres. Vous leur dites voilà, moi, je m'occupe des enfants, mais je m'intéresse aussi au dialogue avec les pères et vous espérez que la crèche vous suive quand même.
Bah oui, et puis au final, qu'elles comprennent que primo, c'est dans son intérêt. Secondo, c'est qu'à partir du moment où une structure est pilote, ça veut dire que déjà...
Change tout, ouais.
Puis ça veut dire surtout, en fait, c'est un focus hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'elle va développer des compétences que d'autres n'ont pas encore. Parce que c'est... En fait, les pères rentrent de plus en plus dans les structures, les crèches et autres, mais les structures sont encore des structures pensées pour les mères, ce qui est logique, puisqu'au final, c'est récent. Cette mutation profonde, elle est récente. Donc, il y a tout ça, cette transition qui est à penser.
D'accord.
Et moi, je ne suis pas un client des ruptures brutales, ce n'est pas mon délire, c'est très à la mode, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère les accompagnements doux. C'est en fait, on accompagne les changements avec sérénité, et c'est faisable.
Mais dans la mise en œuvre, ça se ferait comment?
Dans la mise en œuvre, c'est par exemple proposer, factuellement, je bosse pour une crèche, dire, est-ce que j'ai repéré qu'il y avait 2-3 pères là, qui sont là, est-ce qu'il y a possibilité, entre midi et 2, ou 14-15, de... Je dis ça comme ça, ou déboté.
19-20,
voilà, c'est ça.
Après le boulot.
Après le boulot, voilà. D'organiser une petite réunion, leur proposer oui, on essaye, et puis voilà, sachant que ça
D'accord.
prend du temps.
D'accord.
On est sur des logiques de moyen-long terme, là. Il n'y a pas de baguette magique.
Non, c'est intéressant.
Ouais.
On avait envisagé un troisième moyen, je ne sais plus lequel.
C'était l'auto-entreprise, mais là, effectivement, l'auto-entreprise, ce qui est une option intéressante, qui peut être une option complémentaire aussi.
Donc là, d'emblée, vous vous déclarez comme entreprise avec des services que vous facturez,
voilà.
Ce qui suppose d'avoir des services standards.
Tout à fait, standardisés. Ouais.
Qui vont se standardiser au fur et à mesure. Mais peut-être que tout ça va ensemble, à vrai dire. Mm. Une fois que vous êtes dans une crèche, vous commencez à mettre en place certaines activités, vous les standardisez.
Oui, mais après le métier l'auto-entreprise dans ce secteur-là, c'est vraiment un métier à part où effectivement, on est axé sur un métier, un truc. Il faut trouver du coup la clientèle, parce que là on
parce que ça existe déjà du côté des mères, non? Il y a des femmes qui le font.
Beaucoup. Ouais.
Alors si on allait encore plus loin, on fait une fiche de poste.
Oui.
Auto-entrepreneur, l'auto-entrepreneur se fait remplacer fiche de poste sur votre projet qui est si à quelques mots clés: parentalité, conseil, aide, dialogue, petite enfance. Fiche de poste pour faire ce que vous voulez faire.
Fiche de poste, si en auto-entreprise.
Si on va dire que ça va marcher à fond et vous êtes obligé de prendre quelqu'un derrière vous, avec vous.
Voilà. Bah, en fait, le truc, c'est que il faut. Alors, moi, j'ai constaté en fait que notamment sur tout ce qui est l'échange, changer des enfants ou le portage ou des choses comme ça qui se font déjà.
Oui. Moi, c'est une infirmière qui m'a appris.
Ouais. Voilà. Et ça, c'est souvent des femmes qui le font. Donc, c'est comme ça. Hein. C'est pas un jugement, c'est un constat. Le fait que ce soit un homme qui le propose à d'autres hommes, c'est con, mais c'est une des spécificités des darons, c'est que c'est pas excluant au final du tout, mais on se réunit entre hommes.
Voilà, oui, mais quelquefois, les féministes parfois ont souhaité être seules entre femmes.
Et tout à fait. Alors attention, parce qu'on travaille aussi les questions de genre, l'homoparentalité. Donc c'est-à-dire que il faut se sentir père. Donc si par exemple une femme se sent père, il est évident qu'elle a sa place dans une réunion de pères.
Si une femme se sent père, si elle est trans...
Sur les questions de genre.
Si elle est passée homme.
Si elle a fait une transition homme.
D'accord, c'est des cas très intéressants, mais ça reste marginal.
Ça reste marginal, mais ça fait partie, entre guillemets, des statuts, c'est-à-dire en fait ne pas exclure en fait c'est
d'accord,
la paternité.
Mais la définition du poste.
Alors la définition du poste, je faisais cette petite digression parce qu'en fait il faut être capable de s'adresser à tous les publics. Sans jugement, c'est-à-dire à des personnes qui
ouverture d'esprit.
Ouverture d'esprit.
Oui, et après ?
Et après, technicité aussi quand même, hein, parce qu'au final, si je veux bosser en milieu institutionnel, c'est pas pour m'emmerder en fait Non, il faut que la personne quand même, elle essaie... Il y a un savoir-être qui est très important, qui est très difficile à expliquer, le savoir-être, parce que c'est...
Et le savoir-faire, moi je vois quand même, capacité à animer une réunion, c'est pas rien.
Non.
Capacité d'écoute, savoir changer un enfant.
Oui.
Parce que quand vous faites des réunions, il y a une dimension même psy un peu.
Il y a une dimension d'écoute. Alors psy non, parce qu'au final psy ça impliquerait en fait de. Alors la psychologie c'est vraiment ainsi. Enfin c'est comme ça que je le perçois. Hein. La différence entre la psychologie et la réunion, c'est que la réunion en fait on ne s'attarde pas sur une personne ou sur un cas en particulier.
Oui.
C'est-à-dire, en fait on évoque des sujets en global. Et après les gens prennent les choses et d'une certaine manière c'est comme s'ils discutaient entre eux. C'est-à-dire que je ne suis pas là, en fait, moi je ne suis pas psychologue.
Non.
Et si je commençais à donner mon avis ou à faire en fait une forme de psychologue, alors là, ça serait extrêmement dangereux.
C'est vrai que vous êtes dans le domaine de la santé, donc il faut être très sérieux.
Voilà. Par contre, ce n'est pas interdit de discuter.
Ouais.
Mais ce process de discussion, il est extrêmement précis. Je vous donne un exemple qui rentre dans le cadre de la fiche de poste, justement, ce fameux sexualité et grossesse, parce qu'on peut avoir des relations sexuelles avec une femme enceinte.
Ça se discute souvent avec un médecin.
Exactement. C'est-à-dire que mon avis à moi, des fois, on me dit, mais ça m'est arrivé qu'on me demande, mais toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ce que j'en pense, moi, on s'en fout. D'accord. Mon problème à moi, et parce que je coordonne.
Oui, vous voulez faire parler, vous croyez à la vertu de l'expression.
Mais par contre, in fine, lorsqu'il y a des aspects techniques, être capable de dire, et ça, je n'ai pas de souci avec ça, sur une question aussi précise que ça, aller voir un médecin, un gynécologue, voilà.
Alors maintenant, on va prendre encore plus de recul, on s'adresse aux jeunes.
Oui.
Pas forcément qui veulent faire exercer sur la parentalité, c'est assez précis, mais... Moi, j'imagine que, vu le projet que vous avez mené, vous pouvez peut-être dire quelques lignes de force pour mener de front deux activités, pour partir d'une activité qui n'existe pas vraiment, la parentalité, homme, etc. Vous avez créé la sauce, vous vous rapprochez des crèches, vous prenez contact avec la maternité, enfin tout ça là. Comment on pourrait le résumer pour dire un jeune homme qui voudrait pas rentrer ni la fonction publique, ni qui veut pas être salarié, qui veut monter sa boîte, qui veut monter son propre activité, y compris sur une activité qui serait peut-être un peu minoritaire, marginale ou pas définie d'avance. Quel conseil on pourrait donner?
Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça peut sembler touffu, et ça l'est clairement, mais il n'y a pas... C'est buissonnant, mais il n'y a pas de liberté sans discipline, donc ça veut dire que l'axe de ma vie, ça a toujours été le théâtre, donc c'est comme si c'était en fait le nord. Voilà. Okay. Donc au final, j'ai un nord magnétique.
D'accord, très bien.
C'est autour duquel, qui a toujours été le même au final depuis que j'ai l'âge de 9 ans et qui a fait que j'ai choisi les boulots que j'ai choisis pour faire du théâtre le soir.
D'accord, donc une direction. Hein.
Une direction. S'il n'y a pas de direction, c'est le bordel. Donc en fait, il faut une direction, il y a un axe.
Et le lien entre le théâtre et la parentalité, là ?
Eh ben, c'est en fait c'est ma manière de mener les réunions.
Oui, les séances de théâtre que vous transposez dans les réunions. Okay.
C'est très proche.
Donc il faut une direction, il faut après beaucoup d'inventivité, je trouve.
Oui, et puis nécessité fait loi aussi, c'est-à-dire qu'il faut accepter, il faut avoir conscience que bah, il y a une forme de rusticité dans la vie, ça génère une forme de rusticité.
Presque austérité, ouais.
Parfois, oui. Parfois, ouais.
Mais ça fait partie des grands projets, d'accepter de le payer, c'est-à-dire, comment ça... Ouais, nécessité fait loi, vous le dites très bien. Ouais.
Mais de vivre dans son propre costume, ça a de la gueule, surtout en fait quand on a 46 ans, et de se dire que bah ouais, ça a été rustique, mais je n'ai aucun regret.
Okay.
Aucun regret dans le sens où j'ai aimé ma vie. Ce qui est quand même un luxe, hein, puisqu'au final, tout le monde n'a pas ce luxe-là de se dire j'ai aimé ma vie.
Oui, non, vous êtes en plongée à fond dans votre activité. Pour l'instant, elle ne rapporte pas tout ce qui sera nécessaire une fois que vous n'aurez plus cette transition. Merci à l'État, mais ce n'est pas pour rien. En plus, c'est pour créer une boîte.
Oui.
C'est ça a de la valeur, ça a beaucoup de valeur.
Ah mais complètement, parce qu'au final, il y a effectivement les. Ça aussi, c'est sur des clients comme moi, il y a l'aspect philosophique est jamais très loin. Donc ça veut dire que il faut, si on a des axes comme ça, il faut qu'il y ait une question du sens. Il n'y a pas la question du sens.
Oui.
On disait.
Non mais sans la question, il n'y a plus rien. C'est pas la peine d'aller s'embêter.
Mettez-vous sur l'autoroute. Il y a des stations-service tous les 50 bornes. C'est bien quoi. Et c'est pas contestable. C'est-à-dire que chaque personne est telle qu'elle est. Choisir une vie comme la mienne, c'est pas la panacée, mais c'est pas l'enfer non plus. Mmh. Et vous pourrez dire aux gens, me semble-t-il, donc ça c'est une petite digression encore, mais faites surtout ce que vous pensez être bon pour vous.
Oui, oui.
N'écoutez
pas. On finira là-dessus, ouais.
Voilà, au final.
Bon message. Merci beaucoup. Donc,
merci à vous.
Êtes, je rappelle, Frédéric Lacoste. Et pour le théâtre, ça se passe au Pilier Rouge. Il y a deux autres endroits, je vous
dis. À l'Astérie, à Plougastel et à Jacolo, à Rélec.
Voilà, tout public.
Ouais.
Et... pour la parentalité, je conseille Google, Les Darons, Brest ou Frédéric Lacoste.
Ouais.
Merci beaucoup Frédéric.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.